La deuxième partie de notre ouvrage explore les stratégies de lutte contre l'expansion des marchés criminels qui vient d'être décrite. Alors je ne veux pas évidemment entrer dans le détail technique de cette organisation, cette technicité qui laisse d'ailleurs à penser que c'est une affaire de spécialiste. Je crois au contraire que c'est bien l'affaire de chacune et de chacun d'entre nous. Je voudrais peut-être donner à titre d'exemple une proposition que nous portons et qui me paraît refléter à la fois les difficultés auxquelles on est confronté et puis la solution qui se profile. Donc, Jacques Arnoux, lorsqu'il était à la Commission européenne, a été l'auteur d'une communication avec la direction générale, sécurité, liberté, justice. Et cette communication qui a été élaborée en 2008 a ainsi les États membres envisager d'instituer dans tous les États de l'Union européenne ce qu'on appelle la confiscation sans condamnation pénale. Cette confiscation sans condamnation pénale a été instituée en Italie. En Italie, il est possible de confisquer les biens de la criminalité organisée sans condamnation pénale. Sachant que l'objectif des organisations criminelles est d'accumuler des profits ici pour les réinjecter dans le circuit économique visible, la confiscation italienne sans condamnation pénale vise uniquement à intercepter ces actifs pour éviter qu'ils ne gangrènent l'économie visible. Le tribunal peut donc ordonner la saisie des biens dans la personne contre laquelle le bien dont elle dispose, directement ou indirectement, et cela uniquement si deux conditions sont remplies. D'une part, il faut qu'il y ait des indices suffisants, tels que disproportion considérable entre le trafic de la personne et les revenus qu'elle déclare à l'administration fiscale, et qui permettent d'estimer donc que ces biens constituent le produit d'activité ou leur emploi. Et d'autre part, la personne qui fait l'objet de la procédure doit appartenir à une organisation criminelle. On va demander à la personne de faire la démonstration de l'origine. Ici, on constate un déséquilibre important entre son train de vie et les revenus déclarés. On va donc présumer que l'origine est illicite et on va lui permettre évidemment de démontrer la provenance licite, légitime des biens. Et si elle ne parvient pas à la démontrer, la demande de. On pourra saisir et confisquer ces biens. Donc, les liens qu'une personne entretient avec une organisation criminelle vont permettre sans recourir à une procédure pénale, de présumer l'illicéité de ces biens et donc de les confisquer s'il n'est pas en mesure de faire la démonstration qu'ils ont été acquis avec des revenus illicites. Eh bien, cette législation, il faut dire une chose, c'est qu'elle est à l'origine de l'exportation de la mafia hors d'Italie vers d'autres pays d'Europe, tels que l'Allemagne, la France, l'Espagne ou les Pays-Bas. Un journaliste, Francesco Porcione, qui a présidé la commission parlementaire des mafias en Italie, rapporte d'ailleurs que dans une conversation en prison avec son neveu, en 2007, Francesco Unzerio, qui est un membre de Cosa Nostra, dit la chose suivante. Ici, il n'y a pas de futur, on ne peut pas travailler le moment. Si tu veux la paix, tu dois t'en aller. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que cette procédure était parfaitement conforme à la procédure de conforme à la présomption d'innocence. Et je pense considérer que ni le droit de propriété, ni la liberté d'entreprendre sont des droits absolus. Et l'intérêt général justifie qu'il puisse être aménagé de manière à empêcher qu'il ne soit utilisé à des fins criminelles. S'il est vrai que la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses convenir à la plus absolue, il me semble que c'est à la condition que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Une démocratie doit pouvoir exiger une personne qui entretient des relations avec une organisation criminelle, et bien qu'elle fasse la démonstration qu'elle a acquis des biens avec des revenus licites et adéquats. Elle doit pouvoir les confisquer. Donc, si au plan des pratiques, il n'y a pas en droit français d'obstacle majeur à reconnaître la possibilité d'instaurer, de reconnaître donc, la confiscation sans condamnation pénale. Simplement, on a un obstacle technique. Cet obstacle technique est que le droit français n'incrimine pas la participation à une organisation criminelle. Et pourquoi, alors qu'on a une décision cadre de 2008 qui dit que l'ensemble des États membres devraient incriminer la participation à une organisation criminelle, eh bien, c'est parce que, en France, particularité française, nous n'avons pas d'organisation criminelle. Il n'y a pas de criminalité organisée en France. Et puis nous avons d'autres techniques, nous avons l'association de malfaiteurs, nous avons la bande organisée qui doit permettre de régler les problèmes. Or, ni la bande organisée, ni l'association de malfaiteurs ne peuvent se substituer pour des raisons techniques, je ne vais pas revenir ici, elles ne sont pas suffisantes, elles ne peuvent pas se substituer à ce délit d'appartenance à une organisation criminelle. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation criminelle? Après, vous allez dire s'il y a une organisation criminelle en France. Une organisation criminelle, c'est une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes, à partir de trois, agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté d'au moins 4 ans. Pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel. Donc, l'association structurée, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui ne s'est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction. Mais il n'est pas nécessaire, pour que l'on soit en présence d'une organisation structurée, il n'est pas nécessaire que ses membres tiennent formellement un rôle défini. Il n'est pas non plus nécessaire que l'organisation soit dotée d'une structure élaborée, voire même d'une continuité dans sa composition. Donc, si l'organisation criminelle se résout à être une organisation structurée, c'est-à-dire deux ou trois personnes qui vont se mettre ensemble pour commettre une infraction de peine d'emprisonnement supérieure. Nul doute que nous avons des organisations criminelles en France. Et je vais vous en donner quelques exemples. Le milieu marseillais investit et investit dans de multiples activités criminelles en région PACA. Exploitation de machines à sous, extorsion de fonds, des infractions financières et des activités de blanchiment, régulièrement démantelées des réseaux. En 2010, la direction centrale de la police judiciaire a démantelé, a tenté à Bordeaux un réseau criminel bulgare qui prostituait en France des enfants sur la voie publique depuis 2 ans. Les profits générés par ces activités étaient réinvestis dans les pays d'origine où prospèrent de véritables mafias locales. Un réseau de fabrication et déploiement de faux documents impliquant 16 personnes a été démantelé. Le faussaire et deux convoyeurs fournissaient plusieurs communautés étrangères, turques et chinoises, établies en France. Un réseau serbe de trafiquants d'armes de guerre, je vais en parler, qui importait en France des copies de pistolets mitrailleurs de migrants a été démantelé en 2010 en Seine-Saint-Denis. Il a été vendu en France 2000 euros pièce par les trafiquants qui ont acheté en Serbie 200 euros. En Alsace, la gendarmerie a interpellé 10 ressortissants croates, italiens et roumains qui organisaient des cambriolages dans les maisons alsaciennes. 3 rançonneurs ont été interpellés en Allemagne, 7 véhicules et 128 000 euros, une centaine de bijoux saisis. Et puis, dernièrement, c'est l'irrésistible ascension du crime géorgien en France qui inquiète. La formation des organisations criminelles géorgiennes en France. Alors, elle s'appelle Bratva, qui signifie fraternité des criminels. C'est tout un programme. et le transfert de leur activité illicite et de leur conflit est apparu avec une tentative de meurtre à Nice en février 2010, avec l'assassinat d'un parrain à Marseille en mars et un règlement de compte à Caen en novembre. La quasi-totalité des ressortissants géorgiens poursuivis en France pour des infractions liées à cela petite et moyenne délinquance sont en réalité des membres d'organisations criminelles transnationales. Elles s'appuient sur une armée, on les appelle les chefs d'or, qui sont souvent des toxicomanes, qui sont auteurs d'une multitude de vols, de cambriolages, de résidences privées, de locaux industriels et commerciaux, et ces équipes organisées de voleurs obéissent à un responsable. Ce responsable régional va prélever des contributions financières qui alimentent une caisse commune de l'organisation. Et ces fonds atteignent plusieurs centaines de millions d'euros. L'implantation en France de ces groupes criminels s'est accélérée avec la crise russo-géorgienne, mais également sous l'effet, là on le voit bien, sous l'effet d'une législation anti-mafia renforcée en Géorgie et en Russie. Et donc les organisations criminelles fonctionnent comme les organisations, comme des entreprises. Elles font du log shopping, c'est-à-dire qu'elles font, les entreprises ici vont aller tenter de s'implanter sur des juridictions qui vont favoriser le développement de leur activité. Les organisations criminelles font strictement la même chose. Elles vont identifier les arbres de paix. Là, on ne pourra pas saisir leur savoir. Donc, dès qu'une législation est mise en place, une législation répressive est mise en place dans un État, si l'État, les autres, l'ensemble des autres États n'adoptent pas la même législation, et bien cela va avoir pour effet d'attirer les organisations criminelles. Et à cet égard, il me semble que l'argument qui est avancé aujourd'hui et qui consiste à dire « Ah, mais la confiscation sans condamnation pénale, ça n'est pas conforme à notre tradition juridique, nous ne pouvons pas la recevoir », s'il faut même en perspective, c'est que le crime, lui, s'est totalement transnationalisé, que des groupes criminels lituaniens, géorgiens se mettent ensemble, transcendent leur différence culturelle pour commettre des exactions. Je crois qu'en contre, nous devons être capables, nous aussi, enfin, je parle, si nous voulons que la démocratie qui survive, ben, cela doit être capable de transformer les différences, les traditions juridiques pour aller dans davantage d'efficacité. Voilà, je crois qu'on a fait un accord. Il y a des solutions, c'est la valeur de tous, parce que ces débats-là vont venir devant. Devant les citoyens, puisque des propositions de loi vont être faites, et vous allez entendre un certain nombre de choses. Et je crois qu'il faudra toujours avoir en perspective, c'est vrai que la confiscation sans condamnation pénale n'est pas dans notre tradition juridique. Mais je crois que si c'est le moyen d'éviter que la France ne devienne un arbre de paix pour les organisations criminelles, eh bien nous devons au moins réfléchir à la possibilité de le transposer, d'autant que ce a été considéré comme étant conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Je vous remercie et je vous invite à vous poser des questions. Je vais vous présenter quand même le CRASCO. Le CRASCO est une équipe de recherche à l'intérieur du Centre du droit de l'entreprise dont le directeur est le professeur Michel Stock. Stock qui a permis donc à cette équipe de recherche de se constituer à l'intérieur du Centre universitaire. Je vais lui donner la parole pour qu'il en dise quelques mots.
Merci. Très brièvement, je voudrais faire quelques commentaires sur la méthode des études. Quand on parle de criminalité organisée, vous avez vu, on peut brasser tous les domaines, la géopolitique, la politique, la sociologie, l'histoire, le droit, l'économie, la finance, etc. Comment structurer tout cela et comment l'implanter dans une approche journalistique? Alors précisément, nous avons mis en place au sein du Centre de droit d'entreprise, un centre de recherche qui est dirigé par Chantal Cutajar, qui associe des universitaires, mais aussi des praticiens, des professionnels. Des professionnels magistrats, des professionnels comme la gendarmerie, de structurer un peu ces idées qui risquent de partir dans tous les sens. Et un colloque a été organisé il y a 2 ans sous la présidence de Jacques Rabault qui était venu créer ce colloque. Et on peut voir alors quel est le rôle du juriste et quel est le rôle aussi d'un chercheur dans le domaine juridique. À l'issue de ce colloque, un travail de synthèse a été présenté, c'est l'ouvrage qui vous est proposé aujourd'hui. Dans une approche d'abord d'esthétique, du phénomène, et ensuite des remèdes que l'on peut y proposer, c'est-à-dire de la répression. Car si l'on parle de criminalité organisée, la première chose à laquelle il faut se trouver, c'est comment lutter contre cette criminalité, comment répliquer. Le juriste a nécessairement un rôle fédérateur, montrer l'inefficacité des textes qui sont en place et de proposer des solutions. C'est l'intérêt de cet ouvrage que d'émettre un certain nombre de propositions. Mais émettre des propositions, si elles ne sont pas suivies, on ne peut pas leur interférer. Et voyons là l'importance d'un centre tel que le Grasco. Jacques Barreau était présent au cours de cette journée. Il y avait des parlementaires également qui étaient présents. Et dans le prolongement de ce qui a été fait, le législateur a pris contact avec le Grasco, le futur parlementaire, pour demander à entendre Fontaine Tajar, précisément pour mieux finaliser les projets de loi destinés à lutter contre la criminalité organisée. Ce qui est déjà un aspect. Et autre aspect, toujours dans le volet prolongement des recherches, nous allons candidater pour que soit créé à Strasbourg un centre européen de formation des investigateurs en matière financière destiné à mieux les former dans une répression au plan international, puisque vous avez compris que la répression n'est pas du tout nationale. Si un dispositif est trop répressif dans un pays, bien, les réfléchisseurs font leur analyse et vont dans le pays voisin, ce qui est un système extrêmement facile avec la perméabilité des frontières. D'où la nécessité de mettre en place un dispositif au plan international. Nous allons mettre en place, nous allons candidater pour que Strasbourg soit reconnu comme le siège de cette école européenne d'investigation financière. Et par ailleurs, dans le prolongement de ces travaux, nous avons un autre volet qui va être développé sous la direction du colonel Alain Sevilla sur les cybermenaces, car nous sommes ici en présence d'un véritable échiquier. Quand vous avancez l'avion, en face, vous avez quelque chose. Il y a les cybermenaces, la cybercriminalité sont un des aspects aussi de ce dossier. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour montrer que on demande parfois ce qu'est la recherche juridique, ce qu'est la recherche universitaire. Ici, vous avez un très bel exemple d'une recherche scientifique, juridique et multidisciplinaire dans une approche pragmatique.